Les Actes des Apôtres, chapitre 20. Paul quitte Éphèse, versets 1 à 6.
Lecture de la parole. Or, après que le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Et ayant traversé ces quartiers-là, et ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. Et après qu'il y eut séjourné 3 mois, les Juifs lui ayant dressé des embûches, comme il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens Aristarque et Segon, et Gaius, et Timothée de Derbe, et Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci, ayant pris les devants, nous attendirent en Troade. Et pour nous, nous partîmes à force de voile de Philippe, après les jours des pains sans levain, et nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux dans la Troade, et nous y séjournâmes 7 jours.
Lecture de l'étude. Lorsque le tumulte d'Éphèse eut cessé, Paul fit venir les disciples, et après les avoir embrassés, partit pour la Macédoine. De ce qu'il fit dans ce pays, où il y avait plusieurs assemblées, entre autres à Philippe, à Thessalonique et à Bérée, il est dit simplement au verset 2, « Et ayant traversé ces quartiers-là, et ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. » Mais nous connaissons un détail de ce voyage par ce qu'il dit en 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13.
Or, étant arrivé dans la Troade pour l'évangile du Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'ai point eu de repos dans mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Tite mon frère. Mais, ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine.
Pour aller d'Éphèse en Macédoine, Paul passa par la Troade où il pensait trouver Tite qu'il avait envoyé d'Éphèse pour porter aux Corinthiens sa première épître. Comme il avait écrit sévèrement, quoique dans l'amour, il était anxieux de savoir quel effet elle avait produit. Tite étant déjà parti, quoiqu'une porte lui fût ouverte pour annoncer l'Évangile, Paul ne put rester en Troade et continua son voyage vers la Macédoine, où il le trouva. 2 Corinthiens 7, verset 13.
C'est pourquoi nous avons été consolés, et nous nous sommes réjouis d'autant plus abondamment dans notre consolation de la joie de Tite, parce que son esprit a été récréé par vous tous.
Rassuré sur l'état des Corinthiens, il leur écrivit de là sa seconde épître, où il les exhorte, entre autres, à préparer des secours destinés aux disciples de la Judée, dont il leur avait déjà parlé dans 1 Corinthiens 16, versets 1 à 3.
Or, pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, comme j'en ai ordonné aux assemblées de Galatie, ainsi faites vous aussi, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne se fasse pas alors de collecte. Et quand je serai là, ceux que vous approuverez, je les enverrai avec des lettres pour porter votre libéralité à Jérusalem.
Voir encore 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, et Romains 15, versets 25 et 27. Épître que Paul écrivit aussi pendant ce voyage.
Mais à présent je vais à Jérusalem étant occupé au service des saints. Car elles l'ont prise à cœur et elles sont leurs débiteurs, car si les nations ont participé à leurs biens spirituels, elles sont aussi sous l'obligation de les servir dans les choses charnelles.
Arrivé en Grèce, il y séjourna 3 mois, durant lesquels il put revoir l'assemblée de Corinthe et songeait à se rendre par mer en Syrie, pour aller à Jérusalem. Mais il apprit que les Juifs lui avaient dressé des embûches, espérant, sans doute, le faire mourir, et décida de passer par la Macédoine, chemin beaucoup plus long, et qui nous valut les précieux enseignements que nous donne ce chapitre sur sa visite en Troade, et les exhortations qu'il fit aux anciens d'Éphèse qu'il vit à Milet. Dieu dirige ses serviteurs pour accomplir sa volonté. Il se servit des mauvaises intentions des Juifs de l'Achaïe pour que sa parole contienne des enseignements qui nous sont si utiles. Tous les compagnons de Paul se dirigèrent avec lui vers la Macédoine. Un frère de Bérée, nommé Sopater, l'accompagna jusqu'en Asie où se trouvait Éphèse, tandis que d'autres frères de Thessalonique, Aristarque, Segond et Gaius, puis le fidèle Timothée avec Tychique et Trophime, prirent les devants et l'attendirent en Troade avec ceux qui l'accompagnaient. D'après le verset 6, ceux-ci s'étaient arrêtés à Philippe, d'où ils partirent par mer après les jours des pains sans levain. Un dimanche en Troade, versets 7 à 12.
Lecture de la parole. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours, et il prolongea le discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil comme Paul prêchait très longuement, tomba, accablé par le sommeil, du troisième étage en bas, et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et l'ayant embrassé, il dit « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté et qu'il eut rompu le pain et mangé, et qu'il eut conversé longtemps jusqu'à l'aube, il partit. Et ils amenèrent le jeune garçon vivant, et furent extrêmement consolés.
Lecture de l'étude. La veille du départ de Paul, le premier jour de la semaine, l'assemblée était réunie pour rompre le pain. Cette mention, très précieuse et importante, confirme que le jour du Seigneur, le dimanche, est bien le jour choisi pour se souvenir de sa mort, puisque c'est ce jour-là qu'il ressuscita. On ne rompait pas le pain à l'occasion de la visite de l'apôtre, car on lit, et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, indication d'une habitude suivie sans doute ailleurs, car les saints étaient conduits partout par le même esprit. Le jour du sabbat ne peut se célébrer dans le christianisme, puisque le Seigneur le passa tout entier dans le tombeau, sa mort ayant mis fin à l'état de choses légales auquel appartenait le sabbat. Le jour mis à part pour le Seigneur est le premier de la semaine, déjà spécifié par sa résurrection en Jean 20, verset 19, et de nouveau mentionné 8 jours après quand les disciples étaient encore réunis. Verset 26.
Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix vous soit ». Ces 26 et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix vous soit ».
Ils ne prenaient pas la scène ces dimanches-là, puisque le Seigneur était encore avec eux. Mais c'était le jour du Seigneur, ce qui est confirmé en Apocalypse 1, verset 10, où Jean dit « Je fus en esprit dans la journée dominicale, ou seigneuriale, qui appartient au Seigneur, mise à part pour lui. » La présence de Paul, qui devait partir le lendemain, donnait un cachet particulier à cette réunion. Il profita de l'occasion pour faire un discours qui se prolongea jusqu'à minuit. Les premiers chrétiens rompaient le pain le soir et faisaient en même temps un repas, parce que le Seigneur avait institué la scène le soir après le repas de la Pâque. Il y avait beaucoup de lampes dans la salle à cause de la nombreuse assistance. Un jeune homme nommé Eutyche, assis sur la fenêtre, s'endormit profondément parce que Paul prêchait très longuement, tomba et fut relevé comme mort. Il nous semble que, si Paul nous tenait un discours, personne au milieu de nous ne dormirait. mais ce n'est pas certain, car nous avons souvent l'occasion d'entendre cet apôtre dans nos réunions, lorsqu'on lit dans ses épîtres et que l'on en parle, ce qui n'empêche pas toujours de s'assoupir. Ce qui tient éveillé, c'est l'intérêt que l'on porte à la parole qui est présentée. Elle a du reste une saveur toute particulière lorsqu'elle est lue là où le Seigneur a promis sa présence, et c'est cette présence qu'il faut rechercher avant toute autre chose lorsque nous sommes réunis, car c'est de cela que découle l'édification de l'assemblée. Le Seigneur a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en ou à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Paul descendit, se pencha sur Eutyche, l'embrassa et dit, « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Verset 10. Tous furent extrêmement réjouis de le retrouver vivant. Il avait simplement perdu connaissance. Ils rompirent donc le pain et mangèrent. Puis, après avoir conversé jusqu'à l'aube, ils partirent. C'était un moment solennel que celui-là, car, ainsi que l'apôtre le dit aux anciens à Milet, il ne pensait pas les revoir ici-bas, et cette perspective l'avait engagé à parler longuement. Les chrétiens d'alors, surtout ceux d'entre les gentils, ne possédaient pas comme nous les Écritures. Ils étaient enseignés oralement lorsqu'ils avaient la visite d'un serviteur du Seigneur. C'est pourquoi ils profitaient de cette occasion exceptionnelle, puisque la réunion avait pour but de se souvenir de la mort du Seigneur et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une prédication. Car nous sommes réunis pour nous souvenir du Seigneur, nous offrons à Dieu le Père, comme au Seigneur, les louanges et l'adoration de cœurs reconnaissants. Une prédication est plutôt exceptionnelle si le culte est bien rendu. Elle peut avoir lieu si l'on se laisse diriger par le Seigneur. Départ de la Troade, versets 13 à 16.
Lecture de la parole. Or pour nous, ayant pris les devants sur un navire, nous fîmes voile vers Assos où nous devions prendre Paul à bord, car il l'avait ainsi ordonné, étant dans l'intention d'aller lui-même à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Et ayant fait voile de là, nous arrivâmes le lendemain à la hauteur de Chios, et le jour suivant nous touchâmes à Samos, et, nous étant arrêtés à Trogyle, nous vîmes le jour d'après à Milet, car Paul avait résolu de passer devant Éphèse, de manière à ne pas dépenser son temps en Asie, car il se hâtait pour être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem.
Lecture de l'étude. Les compagnons de Paul partirent par mer et arrivèrent à Assos, localité située au sud de la Troade, où ils attendirent l'apôtre qui avait désiré faire ce chemin à pied. Il éprouvait, sans doute, le besoin de se trouver seul et de jouir des effets bienfaisants de cette marche dans la solitude. Lorsqu'il eut rejoint ses compagnons à bord, le navire les transporta à Mytilène, située dans l'île de Lesbos. Le lendemain, ils arrivèrent à la hauteur de Chios, autre île sur les côtes d'Asie mineure. Le troisième jour, ils passèrent à Samos et s'arrêtèrent à Trogyle, puis abordèrent à Milet. Ils évitèrent Éphèse, qui se trouvait un peu plus au nord, car Paul avait peu de temps, puisqu'il désirait être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Discours de Paul à Milet, versets 17 à 38.
Lecture de la parole. Or il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent revenus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, moi je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toute chose qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». Et ayant dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et ils versaient tous beaucoup de larmes. Et se jetant au cou de Paul, il le couvrait de baisers, étant surtout peiné de la parole qu'il avait dite, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent au navire.
Lecture de l'étude. Il fit donc venir à Milet les anciens de l'assemblée d'Éphèse pour les exhorter à en prendre soin, car ce qui le liait à elle, comme à toutes, ce n'était pas seulement le fait qu'il y avait travaillé longtemps, mais le prix qu'elle avait pour le cœur du Seigneur. Dans l'épître qu'il leur adressa de Rome, il écrit « Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. » Éphésiens 5, versets 25 et 26. Les serviteurs du Seigneur doivent prendre soin de l'assemblée avec le même amour que lui. L'apôtre rappelle aux anciens comment il s'était comporté pendant son séjour parmi eux. Il avait servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et les embûches des Juifs lui avaient attiré de cruelles épreuves. Aucune peine ne l'avait détourné de la tâche que le Seigneur lui avait confiée pour former cette assemblée. Il n'avait caché aux chrétiens aucune des choses qui leur étaient profitables. Il les avait enseignées publiquement et dans les maisons, en insistant sur la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 18 à 21, les deux grandes vérités que l'évangéliste doit placer devant les inconvertis. La repentance premièrement, non le regret d'avoir mal fait, sens restreint que l'on donne ordinairement à ce mot, mais un jugement saint et selon Dieu, porté sur soi et sur ses actes. Si l'on regrette un acte, on peut encore se justifier et en amoindrir la gravité. Tandis que, par la vraie repentance, on se juge soi-même et ses fautes selon la sainteté de Dieu. En reconnaissant ainsi sa culpabilité et le jugement qui en résulte, on est heureux de saisir par la foi la valeur du sacrifice que le Seigneur Jésus a accompli pour sauver le pécheur. Son œuvre achevée, l'apôtre avait devant lui son voyage à Jérusalem qui, au lieu de le remplir de joie, lui faisait pressentir des choses pénibles. Même l'Esprit Saint lui disait que des liens et des tribulations l'attendaient. Mais il ne faisait aucun cas de sa vie, ni ne la tenait pour précieuse. Entièrement livré au Seigneur, tout ce qu'il désirait, c'était d'achever sa course et le service qu'il avait reçu pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu, versets 22 à 24. On peut penser qu'il n'aurait pas dû aller à Jérusalem, puisqu'il en était ainsi. Mais s'il y allait, ce n'était pas pour s'épargner la souffrance, comme il nous arrive de manquer à notre devoir pour l'éviter. Il ne voyait qu'une chose, c'était d'achever sa course, quoi qu'il lui en coûtât. La pensée que les frères d'Éphèse ne le reverraient pas lui était aussi pénible. Il dit « Je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. » Verset 25. Il en prend occasion pour leur dire qu'il était net du sang de tous, faisant allusion à ce que l'Éternel dit à Ézéchiel que, s'il n'avertit pas le méchant et que celui-ci meurt dans son iniquité, il redemandera son sang de la main du prophète. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 21.
Quand je dirai au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertiras pas, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant de se détourner de sa méchante voie, afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa méchante voie, il mourra, lui, dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra, parce que tu ne l'as point averti. Il mourra dans son péché, et ses actes justes qu'il a faits ne viendront pas en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher, et que le juste ne pêche pas, il vivra certainement, car il s'est tenu pour averti, et toi, tu as délivré ton âme.
Paul n'avait mis aucune réserve à leur annoncer tout le conseil de Dieu, verset 27. Ils devaient donc prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint les avait établis surveillants pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Quel motif puissant l'apôtre place devant eux afin qu'ils prennent soin de cette assemblée. Il possédait toutes les vérités qu'il leur avait enseignées, et il insiste sur la qualité et la valeur de cette assemblée aux yeux de Dieu. Elle est son assemblée, elle porte ses propres caractères et il se l'est acquise par le sang de son propre Fils. C'est ainsi que nous devons la considérer, lors même qu'elle est aujourd'hui dans une grande faiblesse. Il semble souvent que c'est si peu de choses que ces quelques chrétiens qui se réunissent au nom du Seigneur, sans aucune apparence extérieure. Mais comment se fait-il qu'ils sont réunis à ce nom? C'est qu'ils ont été rachetés par le sang du Fils de Dieu, qui en a fait des pierres vivantes de l'édifice de Dieu. Sans doute que leur marche, individuellement et en assemblée, n'est pas toujours à la hauteur de leur dignité, ce qui expose l'assemblée à être méconnue comme assemblée de Dieu. Les anciens d'Éphèse, ayant compris ce qu'était l'assemblée, devaient redoubler de zèle pour la paître en lui donnant la nourriture qui convenait à son développement, d'autant plus que Paul leur dit « Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. » Verset 29. Il fallait être vigilant pour les repousser, car ils ne se présenteraient pas sous leur vrai caractère, mais comme les émissaires de Satan savent faire, avec de douces paroles et un beau langage. Romains 16, verset 18.
car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des saints.
Ils s'élèveraient aussi du milieu des croyants des hommes qui annonceraient des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes, versets 30 et 31. Tout ce que l'apôtre a prédit est arrivé. De bonne heure, les loups ravisseurs ont surgi et, du sein même de l'Église, sont sortis des doctrines perverses. Des hommes, se prétendant serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher Christ pour attacher les cœurs à lui, les ont attachés à eux-mêmes par des enseignements qui plaisaient à la chair et les ont détournés du Seigneur. La chrétienté actuelle, savoir tous ceux qui portent le nom de chrétiens, est le résultat de cet enseignement à travers les siècles qui se sont écoulés depuis que l'apôtre, comme un sage architecte, avait fondé l'édifice sur son fondement qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
Mais au milieu de cet état de choses se trouve l'Assemblée de Dieu, composée de tous ceux qui sont sauvés par le sang de Christ. Écoutons ce que dit Paul au verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. C'est là ce qui demeure à travers tous les âges, la parole de Dieu. C'est à elle que l'assemblée est remise. Elle est divine, immuable. » En elle se trouve tout ce qui est nécessaire pour la conversion de ceux qui doivent y entrer et pour les édifier, les enseigner, les conduire dans la séparation du monde et du mal sous toutes ses formes. Paul, qui avait reçu toute la révélation concernant l'assemblée, ne la recommande pas à d'autres apôtres qui viendraient après lui, ni à un clergé établi par des hommes. Il savait que le Seigneur avait promis des évangélistes, des pasteurs et des docteurs tant que l'assemblée serait sur la terre. Éphésiens 4, versets 9 à 16.
Or, qu'il soit monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour.
C'est donc lui seul qui pourvoit dans sa fidélité et son amour à tout ce dont son assemblée a besoin jusqu'à son retour. Il suffit de se laisser enseigner et diriger par sa parole, de lui obéir, pour profiter des ressources toujours à la disposition de la foi et de maintenir, au travers du désordre de la chrétienté, les caractères de l'Assemblée de Dieu. Si les chrétiens l'avaient fait dès le début, au lieu d'établir des hommes qui n'étaient nullement qualifiés pour le service auquel ils prétendaient, comme le montre l'histoire de l'Église et comme on le voit encore aujourd'hui, l'Assemblée serait demeurée dans sa fraîcheur première. L'apôtre montre ensuite, versets 33-35, comment il s'est comporté au milieu des croyants d'Éphèse. Lui, le plus grand serviteur de Dieu qui ait existé, n'avait convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne, ce qui n'eut pas lieu dans la suite chez un grand nombre de ceux qui s'attribuèrent des places dans l'Église et qui ne virent dans leur fonction qu'une source de gain. Paul, au contraire, avait travaillé pour n'être à charge à qui que ce soit, afin de servir d'exemple à tous, car le serviteur de Dieu ne doit pas se borner à enseigner, mais il doit pratiquer ce qu'il enseigne, afin que l'on voit dans sa marche les effets de la parole qu'il présente. Paul dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 9, « Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il dit encore aux anciens d'Éphèse, « Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». On ne trouve pas ce passage textuellement dans les évangiles, car il ne rapporte pas tout ce que le Seigneur a dit, puisque le monde ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits. Mais en Luc 14, versets 13 et 14, on trouve la pensée que Paul attribue au Seigneur « Quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bienheureux, car ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil, car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes. » Puisqu'il y a de tels résultats en donnant, celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Après avoir terminé ses exhortations, Paul se mit à genoux et pria avec eux tous. Et ils versaient tous beaucoup de larmes. Et se jetant au cou de Paul, ils le couvraient de baisers, étant surtout peinés de la parole qu'il avait dite, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent au navire, versets 36-38. On comprend l'affliction que causait le départ de celui auquel, après Dieu, il devait d'avoir été tiré du paganisme pour faire partie de cette institution merveilleuse qu'est l'Assemblée de Dieu. Il est fort probable que l'apôtre revint à Éphèse après sa première captivité à Rome. La parole ne dit pas combien de temps il resta libre entre la première et la seconde. Mais nous lisons en 2 Timothée 4 qu'il avait laissé son manteau en Troade et en Tite 3 qu'il avait résolu de passer l'hiver à Nicopolis, hors de Philippe. On voit en 2 Timothée 4 qu'il approche de la fin de sa course. Il avait déjà comparu devant Néron. Verset 16.
Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé.
On ne connaît sa mort que par l'histoire profane. Elle dut avoir lieu vers l'an 68.